Bonsoir, avec des confrères journalistes, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. Et pour ce soir, deux thèmes ont été retenus pour vous, à savoir l'opposition politique congolaise rejette la feuille de route du processus électoral présenté la semaine dernière par la CENI. Notre deuxième thème et dernier thème portera sur la déclaration des forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR qui ont décidé de déposer les armes pour donner la chance, dit-il, à la paix dans les Grands Lacs. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Martin Ngoyi, éditeur du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Martin Ngoyi, bonsoir.
Bonsoir, Félix.
Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe, quotidien également qui paraît à Kinshasa. Joachim Diana, bonsoir.
Bonsoir.
Et Baba Isaac Kalonji, qui est journaliste indépendant, il intervient depuis Mbujimayi dans la province du Kasaï Oriental. Baba Isaac Kalonji, bonsoir.
Bonsoir, ma consoeur.
Merci de nous suivre par ton RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux quinois pour voir comment la presse écrite a analysé les sujets retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Guy Maté.
La presse quinoise est revenue sur notamment la feuille de route proposée par la CENI la semaine dernière. Feuille de route de la CENI, Maloumalou s'en remet à la classe politique, informe l'avenir. Venu la semaine dernière pour présenter la feuille de route de son institution à l'Assemblée nationale, l'abbé Apollinaire Maloumalou, président de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle, avait soumis à l'attention des élus du peuple des hypothèses en vue de l'organisation du cycle électoral restant. Il a parlé en termes d'hypothèses et révèle la prospérité. La première, organiser les élections municipales et locales au suffrage direct 2015, les élections au suffrage indirect des députés provinciaux, des sénateurs, des gouverneurs et vice-gouverneurs, des conseillers urbains, des chefs des secteurs et des bourgmestres par les conseillers des communes, des chefferies et des secteurs en 2015, élections des maires et maires adjoints des villes par les conseillers urbains en 2015, élections au suffrage universel direct des députés nationaux et du président de la République en 2016. Cycle électoral, l'UNC et alliés jette la feuille de route de Maloumalou, fait savoir par ailleurs le phare. Au cours d'un point de presse animé samedi par le coordonnateur Jean Bertrand Ewanga, qui est en même temps secrétaire de l'UNC, l'Union pour la Nation Congolaise, la CVD Coalition pour le vrai dialogue, a fait remarquer que le président de la CENI n'a pas fait preuve d'indépendance et de neutralité dans les propositions contenues dans sa feuille de route parce qu'il s'est aligné sur les propos du chef de l'État dans son dernier discours sur l'état de la nation, dans lequel il a envisagé la possibilité des élections indirectes pour les provinciales et l'organisation des locales, municipales et urbaines avant les provinciales. Radio Capi.net rapporte que les forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR en sigle ont décidé de déposer les armes pour donner la chance à la paix dans les Grands Lacs. Ces médias précisent que le secrétaire exécutif intérimaire de ces mouvements rebelles, le colonel Wilson Irategeka, l'a annoncé le week-end dernier sur RFI. Pour le porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, si cette décision se confirme, elle permettrait d'accélérer effectivement le retour à la paix dans la région des Grands Lacs. De son côté, la mission des Nations Unies en RDC, MONUSCO en sigle, ne croit pas les déclarations d'intention des rebelles rwandais des FDLR et les appelle à déposer les armes et à se rendre. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC, le général Abdallah Wafi, a affirmé que tant que ces rebelles n'auront pas désarmé, ils seront attaqués par la MONUSCO et les FRDC.
Merci Guy Maté pour cette revue de presse, Joachim Diana. Autre sujet à la une, ce vendredi, Vital Kamerhe interdit de prendre son avion pour Goma. Est-ce un acharnement sur la personne de Kamerhe? Parce que déjà on sait que tout ce matin, il a été déguerpi de la maison de l'État qui loue.
Bon, en fait, en ce qui concerne la maison, moi je pense que c'est son problème privé. Lorsque vous louez la maison de quelqu'un, le propriétaire a le temps et la latitude de vous faire partir, surtout que lorsque vous avez épuisé le préavis de 3 mois et vous êtes là après la notification pendant 3 ans. On peut, parce que selon nos informations, c'est depuis 2010 qu'on lui avait demandé de quitter la maison de l'État. Bon, là, c'est tout un problème. En ce qui concerne sa sortie pour Goma, où il aurait été interdit de sortir, moi, je peux bien me poser la question pourquoi. Et c'est là où je dis que le gouvernement doit faire très attention. Parce que Kamer aujourd'hui n'est pas quelqu'un qui agit au hasard. Il est en train de multiplier les actions, les déclarations des membres de son parti politique. C'est quelqu'un qui est à la recherche de la petite bête et plus qu'on l'arrête, plus qu'on l'infective, plus il s'enferme dans une espèce de syndrome de martyr. Il sait que ce qui s'est devenu qui s'est c'est à cause de plusieurs arrestations chez Mobutu. Et il voudrait maintenant, comme son ambition c'est de prendre la place de Tshisekedi, il voudrait refaire le chemin que Tshisekedi a fait pour que demain qu'il devienne le martyr, demain ce soit la personne qui a souffert et qui peut prendre le pouvoir.
Joachim, on va revenir sur cette maison de l'État que Vital Kamerhe occupe pour ses bureaux par rapport au préavis. Il a dit qu'il n'a jamais reçu des préavis de l'État.
Et là c'est lui qui le dit, mais lorsque le représentant de l'État, on dit que c'est depuis monsieur le ministre Lubamba qu'il avait été notifié pour quitter la maison de l'État. Et je me demande, lorsqu'il avait occupé cette maison, il avait signé le préavis avec quelle commune? Je pense que c'est une maison qu'il a acquise où il reste de gré à gré. Et lorsqu'on lui demande de partir de gré à gré, je pense que la meilleure des choses, c'était d'éviter des problèmes et de partir.
Marcel Ngoui, un mot sur cette actualité, sur Vital Kamerhe qui est à la une aujourd'hui.
Oui, mais je considère que Kamerhe n'est pas né de la dernière pluie. Il s'appelle Kamerhe et grâce à ce qui lui arrive, il se vitalise comme le substantif de son propre nom, Kamerhe Vital. Il se vitalise. Comment? Mais il profite justement, et Diane venait de le dire, il profite justement de cette situation pour se constituer des ressorts sur base desquels il peut rebondir. Il veut que son nom circule sur toutes les lèvres. Il veut grandir dans la politique, dans le sens que, au sein de l'opposition, on a toujours considéré que Kamerhe fait une opposition de façade et que c'est un frustré. C'est quelqu'un qui a perdu quelques privilèges et qui, par enchantement, chercherait peut-être à monter, à faire le gros dos pour que ceux qui l'ont négligé hier le considèrent aujourd'hui. Et donc, lorsque on cherche à le maîtriser, on tombe justement dans son piège. On le livre en pâture, on croit le diminuer, mais avec ça, on l'encense. Et je crois que c'est une erreur de la part des autorités de le pouvoir montrer que Kamerhe est séquestré. Et je considère que la situation de la maison, Kamerhe n'est pas entré dans cette maison quand il était simple citoyen. Il y est entré, peut-être.
Je crois quand il occupait la fonction de ministre de l'information.
Quand il était ministre de l'information. Et donc il faudra aussi qu'on ait cette culture-là. Il est opposant. Lorsque vous êtes en fonction, vous occupez une maison, et quand vous n'êtes plus en fonction, il faut savoir se débarrasser ou quitter ou tout ça. Donc nous ne devons pas être des donneurs de leçons lorsqu'il s'agit de critiquer ce qui se passe, mais on doit être soi-même aussi source de leçons pour les autres. Mais je me dis, même s'il l'a occupé, mais le déguerpissement aurait dû aussi respecter une certaine forme. Il était locataire de l'État, donc il faudra qu'on normalise cette situation.
Merci.
Et pour normaliser, il y a une procédure, même quand il s'agit de déguerpir un locataire.
Merci Marcel Ngoyi, Baba Isaac Kalonji. Vous intervenez depuis Mbujimayi dans la province du Kasaï-Oriental. Qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui dans cette province?
La paix relative, calme sur toute l'étendue de la province. Depuis l'incident de vendredi dernier là, nous sommes un peu calmes. Il y a des problèmes d'eau potable, il y a des problèmes de courant électrique. Et le problème du match qui a opposé notre équipe représentative à Lubumbashi, en balende contre Lubumbashi Sport, c'est ça l'actualité pour la province.
Merci Baba Isaac Kalonji, premier terme de ce soir. L'opposition politique congolaise rejette la feuille de route du processus électoral présentée la semaine dernière par la CENI. Cette feuille de route prévoit entre autres l'élection des députés provinciaux au suffrage universel indirect pour l'opposition. L'intention manifeste de la CENI est d'aboutir à une révision de la Constitution. Chakif Molima pour les détails.
L'une des faiblesses dans cette feuille de route, comme l'ont souligné les députés nationaux, c'est d'une part l'organisation à premier des élections locales, municipales et urbaines, et d'autre part l'élection provinciale au suffrage universel indirect en 2015. Ceci aura pour conséquence la révision constitutionnelle. Le cas contraire garder les provinciales au suffrage universel direct avec une incidence, d'organiser l'élection des sénateurs et gouverneurs en 2017. C'est ce que désapprouvent les députés nationaux. Juvenal Mounoubou.
Le mandat des députés provinciaux, des sénateurs, des gouverneurs est largement dépassé. Ce ne sont pas des chefs coutumiers.
Par ailleurs, pour les députés nationaux Jean-Lucien Boussa, les députés devraient lever une option fondamentale avant tout débat sur cette feuille de route.
D'entrée de jeu, que la plénière se prononce sur le fait que ces débats n'amènent pas à la modification de la Constitution.
Il est certes vrai, acquiesce l'abbé Apollinaire Malumalu, que plusieurs questions ont été soulevées, l'occasion alors pour lui d'en appeler à la responsabilité des uns et des autres.
Il y a beaucoup de questions à résoudre et dans la résolution de ces questions, chaque institution a ses responsabilités. Mais dans tout état de cause, la CENI va toujours travailler en toute indépendance et neutralité.
Notons qu'après la présentation de la feuille de route, la CENI procédera à la confection du calendrier électoral.
Merci Jacques Yves Molima pour tous ces détails. Signalons que l'opposition politique congolaise qui avait participé aux concertations nationales rejette également cette feuille de route du processus électoral. Ses opposants dénoncent, je cite, l'intention manifeste de la CENI de piéger le Parlement en vue d'aboutir à une révision de la Constitution contraire à une recommandation des concertations nationales. Fin des citations. Ils l'ont fait savoir dans une déclaration rendue publique samedi dernier à Kinshasa. Peuple congolais, sois vigilant, le décor de la fraude électorale est déjà planté, c'est le titre de leur déclaration. Marcel Ngoï, je rappelle que vous êtes éditeur du journal La Prospérité, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Comment vous analysez la position de l'opposition politique congolaise qui rejette cette feuille de route du processus électoral présenté par la CENI?
Oui, l'opposition politique évolue en dents de scie. Il ne faut pas confondre l'opposition politique avec quelques individualités. L'opposition demeure plurielle. Si du côté de Tshisekedi, c'est le mutisme et que ce processus ne le concerne pas, si du côté des Kamere et Vital, c'est aussi un processus qui n'est pas intéressant tant qu'on n'aura pas tenu le vrai dialogue. Mais pour cette opposition-là, c'est la condition, c'était peut-être de matérialiser les recommandations des concertations nationales. Et faute de le faire, il faut aller dans la rue, parler, chanter. Voilà. Donc l'opposition aujourd'hui est émiettée. Elle évolue comme ça en ordre dispersé. Est-ce qu'elle parle d'une même voix? Tant qu'elle ne parle pas d'une voix, d'une seule voix, vous allez voir que quelque part, ce qui est dit là, même au début...
Cette opposition n'a pas... Est-ce qu'elle n'a pas raison de s'inquiéter, Marcel Ngoï?
Elle a toutes les raisons.
Lorsque, par exemple, la CENI propose que l'élection des députés provinciaux soit faite au suffrage universel indirect.
L'abbé Malumalu, si je l'ai bien suivi, sans être son avocat dans ce studio, il a présenté des hypothèses. Des hypothèses signifient des différentes possibilités.
Il a présenté deux hypothèses et selon l'opposition, les deux hypothèses violent la Constitution.
Oui, mais il n'est pas le décideur. Et c'est comme ça qu'il est revenu à l'Assemblée nationale pour présenter ce travail technique. Et il appartient à l'Assemblée nationale d'en débattre et de lui donner les orientations qu'il faut. Monsieur l'abbé Malumalu ne décide pas. Et il fait le travail technique une fois que les options politiques, les orientations sont levées. Et il a présenté chaque schéma et chaque schéma est assorti de propositions concrètes en ce qui concerne l'impact du point de vue budgétaire, le préalable sécuritaire et consorts. Et dans le cas d'espèce, l'hypothèse qui fâche, c'est lorsqu'il touche au problème des élections provinciales, au suffrage universel indirect. Et il dit que dans ces cas, c'est l'Assemblée nationale qui doit décider, qui doit élever l'option, parce que s'il faut qu'on y arrive, il faut absolument qu'on puisse réviser. On lui a posé la question s'il n'y avait pas d'autres hypothèses, c'est-à-dire la possibilité de garder les élections provinciales au suffrage direct, comme c'est écrit dans la Constitution. Il a dit que c'est faisable. Mais le problème qui est là, est que s'il le fait de cette manière-là, et c'est le schéma qui l'indique, il pourrait des opérations préélectorales, les opérations électorales et post-électorales, ça va arriver au mois de mars, non, février et mars 2016. Le processus, s'il engage, ça va aller jusqu'au mois de février ou mars 2016. Si bien que l'organisation maintenant des législatives et même de la présidentielle en 2016 risque d'en pâtir. Il a présenté beaucoup de schémas. Ce qui était important pour moi, c'était que les députés s'y penchent sérieusement. Qu'on crée une commission là-dessus pour y travailler ensemble avec la CENI pour dégager la voie à suivre. Contrairement à ce qu'on pense, M. Lada a amené sur la table du Parlement toutes les propositions. Il appartient au Parlement d'en débattre, de décider et d'orienter.
Merci.
Faute de le faire, c'est un peu comme une fuite des responsabilités.
Joachim Diana, vous êtes éditeur du journal La Colombe, un quotidien qui paraît à Kinshasa. Quelle est votre lecture à vous par rapport à cette position de l'opposition politique congolaise?
Bon, d'abord, je ne suis pas surpris par cette attitude de l'opposition, une opposition que l'on sait et qui vit du ramassage et de la cueillette. Cette opposition n'invente rien. Elle tombe sur la moindre phrase, sur la frigile qui aime placer ceci pour faire son débat politique. Et aujourd'hui, vous vous souvenez, je vais partir en tirant un peu de leçons du passé que Malu Malu n'est pas à la première proposition. On se souviendra qu'avant les élections de 2011, il avait déjà proposé un calendrier avant que la CI parte et laisse la place à la CENI pour dire que si on veut tenir les élections dans le délai et des élections apaisées et tout ça, il fallait déjà commencer et il a proposé un calendrier. La même classe politique aujourd'hui a tout rejeté en bloc et tout en y a à Malu Malu la raison dont le droit de proposer quelque chose. On a tout refait après les débats politiques. On a organisé les élections dans 8 mois et vous savez ce qu'il y a eu comme problème pour organiser les élections de 2011. Et aujourd'hui, l'opposition estime que les élections soient organisées comme ça ceux qui vont perdre ont le prétexte de revendiquer les irrégularités et tout ça, de contester les élections. J'apprends que si on suit le plan de Malu Malu, c'est parce qu'on va réviser la Constitution. C'est là où le côté manipulateur, on dit, oh non, sinon on va réviser la Constitution. Mais qui a dit que la Constitution congolaise ne sera plus jamais révisée? Est-ce que l'article sur les élections au suffrage universel direct...
Il y a quand même des articles dans la Constitution qui sont verrouillés.
Mais tout à fait, c'est ce que je voulais dire, Kelly. J'ai dit ceci. Est-ce que cet article-là sur les élections... au suffrage universel direct en ce qui concerne les assemblées. Est-ce que cette disposition-là est intangible? Non. Mais alors pourquoi on voudrait tromper le peuple congolais chaque fois qu'on dit révision, on croit toute révision constitutionnelle, on amène aux articles qui sont verrouillés. Mais cet article-là n'est pas verrouillé. Mais si, encore une fois, comme Marcel vient de le dire, si la classe politique estime que ils doivent aller aux élections telles que ça se... qu'ils acceptent, qu'ils proposent leur chemin. La CENI va utiliser son indépendance et dans son indépendance va proposer un calendrier selon le moule qu'ils auront voulu et ils n'auront qu'à assumer les conséquences.
Certains proposent qu'on n'organise pas les élections pendant cette période, qu'on attend carrément 2016 pour organiser les présidentielles, législatives, provinciales, locales.
Et tout ça conformément à quelle constitution? Et pendant ce temps, le mandat ne vont-ils pas être prolongés? Si on attend 2016, le Sénat va continuer son mandat. Les assemblées provinciales vont continuer leur mandat jusqu'à la fin. Alors, où est maintenant le problème? Et généralement, les gens, lorsqu'ils parlent du mandat de sénateur, de gouverneur de province, des assemblées provinciales, ils ont l'impression qu'en 2011, le calendrier, donc le processus électoral, ne prévoyait que les présidentielles, les législatives et les sénateurs, c'est tout. Non, on avait prévu aussi les élections locales.
Est-ce que c'est opportun, en ce moment, d'organiser les élections locales? Ce sera une première expérience quand même pour la RDC d'organiser ces élections-là. Et ça demande beaucoup, beaucoup trop de moyens. Est-ce que c'est faisable en ce moment? C'est opportun?
Oui, selon la proposition de la CENI, c'est faisable si on va avec le premier schéma, celle qui constitue à organiser les élections de députés provinciaux au second tour. On peut organiser les premiers. Parce que, Kelly, vous vous souviendrez, si nous sommes un seul pays au monde où on a une démocratie à deux vitesses. Au sommet, les gens sont élus. À la base, les gens sont nommés. Une démocratie à deux vitesses, et ce n'est pas constitutionnel. Donc cela devrait préoccuper les gens. Non, ça ne préoccupe pas les gens. Ce qui les préoccupe, parce qu'ils veulent être députés, ils veulent être gouverneurs, on s'arrête là, à la base. Or, on ne développera jamais ce pays, on n'aura jamais une véritable décentralisation si on n'a pas des dirigeants qui doivent rendre compte aussi au niveau de la base. Il faudra qu'on y parte. Quiconque voit l'intérêt réel de la nation pense qu'on peut même organiser les locales, même si on doit se passer des élections. élections législatives et présidentielles.
Baba Isaac Kalongi, vous êtes journaliste indépendant. Vous intervenez depuis la ville de Mbujimayi, dans la province du Kassa-Oriental. Qu'est-ce que vous pensez de cette position de l'opposition? A-t-elle raison ou tort?
Estimé consoeur, je suis content de cette démarche que nous faisons ensemble. Je vous apprends ceci, que les mêmes causes produisant les mêmes effets, le chef de l'État, au sorti des élections de 2011, a déclaré, je cite, « Les élections ont été organisées, il y a eu beaucoup d'erreurs. » Et le chef d'État de la République démocratique du Congo qui parle, c'est pas Baba Isaac. Il a reconnu des erreurs, il a été honnête avec nous-mêmes. C'est nous, peut-être les journalistes, qui voulons fausser compagnie à Joseph Kabila. Pourquoi? Parce que le chef qui a reconnu des erreurs devrait absolument proposer des pistes de solutions à la nouvelle CENI de Malmalou après le départ de Ngoïngounda. Quelles sont ces solutions proposées par le chef de l'État qui avait constaté les erreurs lui-même et qui les a déclarées officiellement sur la presse mondiale? Donc, si ces erreurs ne sont pas corrigées, et que les gens qui veulent avoir le mandat, veulent avoir le pouvoir, veulent avoir leur position, et se battent pour que les élections se tiennent dans des conditions actuelles, les mêmes causes produisant les mêmes effets, nous allons retomber dans les mêmes erreurs, avec les mêmes conséquences néfastes de contestations et de protestations, qui nécessiteront encore un dialogue inclusif, alors que les autres pays avancent. Voici mon avis. Moi, je préfère que l'abbé Malumalu, qui a été aux élections de 2006, qui a compris combien il est difficile d'organiser les élections en sens unique, qui a même vu combien nous étions en difficulté pour l'apport financier extérieur et l'apport financier de la République démocratique du Congo, il connaît les problèmes techniques auxquels était exposé la CENI à l'époque 2006. Il revient en 2011, après Ngoïngounda, il veut organiser les élections, il propose deux hypothèses devant l'Assemblée. Comme on n'attire pas les mouches par le vinaigre, on attire les mouches par le miel et le sucre, il expose l'Assemblée nationale à prendre des décisions qui peuvent aller d'une manière impopulaire contre le peuple congolais. C'est-à-dire quoi? Même revoir les articles verrouillés. Tout faire pour que les gens qui sont en mandat maintenant, qui ont déjà terminé leur mandat depuis longtemps, aillent jusqu'en 2016 avec le mandat. Un mandat qui n'existe pas. Donc, d'une part, il faut organiser les élections pour que ceux qui sont maintenant dans les mandats au niveau des assemblées, au niveau des gouverneurs, au niveau des sénateurs, puissent être légalement reconnu par l'élection, mais en même temps éviter le retard que les élections 2016 ne puissent pas être reportées à une autre date. Mais tout ça doit se faire pas dans la précipitation, pas dans des hypothèses qu'ils proposent là-bas, mais il doit amener d'abord un correctif aux premières erreurs enregistrées en 2006 et en 2011. Dès qu'on a déjà découvert les erreurs du côté technique, du côté personnel, du côté formation, du côté identification, du côté recensement, et enfin, du côté composition du bureau CENI qui doit être équilibré. En ce moment-là, il y aura moins de protestations, il y aura moins de contestations.
Merci.
Je ne vois pas comment l'abbé Malouane peut proposer un calendrier, une feuille de route, sans tenir compte de tous ces événements dont le chef de l'État avait parlé.
Massane Ngoyi, M. l'abbé Malumalu, propose, selon Baba Isaac, propose un calendrier ou une feuille de route du processus électoral, sans avoir tenu compte des erreurs du passé, c'est-à-dire les élections de 2006-2011. Vous êtes du même avis que lui?
Bon, à mon avis, M. l'abbé Malumalu n'a pas encore proposé le calendrier. Il est venu avec des problèmes et des schémas qu'il a présenté à la représentation nationale pour examen et décision. Il en est sorti avec une recommandation pour qu'il aille réfléchir avec le membre de son bureau sur comment réaliser les élections locales et en même temps organiser les élections provinciales au suffrage universel direct tel que c'est prévu dans la Constitution. Monsieur l'abbé, il travaille. mais seulement s'il a fini de travailler, il faudra qu'il revienne cette fois-là, non seulement avec la feuille de route, mais avec une proposition de calendrier. Alors, la session parlementaire, la session extraordinaire est terminée. Il faudra attendre la prochaine session, soit au mois de mars, vers le 15 mars. Donc, pendant ce temps, M. Labbé consulte, il essaye d'accélérer. Il consulte qui ? Le gouvernement, la communauté internationale, il consulte les chefs traditionnels, il consulte les partis politiques. D'ailleurs, il est prévu une cérémonie importante, selon l'avis de la CENI, demain, avec les partis politiques. Donc, pendant ce temps, il y travaille. Mais moi, mon problème, mon inquiétude, est que plus il prendra le temps pour réfléchir, plus la classe politique va le jeter en pâture, parce que maintenant on le recuse lui-même, lui qui travaille pour ramener des propositions, il est lui-même récusé pour qu'il démissionne par l'opposition à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure. Dans l'entretemps, les députés à qui il avait soumis le dossier lui ont dit de rentrer avec pour aller réfléchir. Alors, bref.
Et donc, l'organisation des élections risque quand même d'être compliquée.
Je sens que la complexité que rêvait ce processus électoral pourrait nous entraîner sur des retards, l'accumulation des retards en retard, à telle enseigne qu'en 2016, d'ici 2016, on risque de ne rien faire. Et donc, on va aller comme ça. On a posé aussi notre problème de concertation politique, c'est le problème de recensement. Lorsque vous dites que la circonscription électorale ne sera plus le territoire, ne sera plus peut-être comme c'était prévu avant dans l'ancienne loi électorale, pendant qu'on voit seulement les difficultés pour la loi, pour la Constitution, mais il y a le problème de la révision de la loi électorale. Il y a un problème de fiabilisation du fichier électoral. Il y a un problème de stabilisation de la cartographie
électorale. Il y a beaucoup de préalables
électorales
qu'il faudra régler.
De préalables. Et quand on va, il y a un problème de mobilisation des ressources. Il y a un problème de recensement. Le recensement, d'après le projet élaboré au niveau du ministère du Plan, ne pourrait pas se terminer d'ici fin 2015. Donc, il y a beaucoup de préalables. Malou-malou n'est qu'une des dimensions. Mais malou-malou, c'est le travail technique, c'est le Parlement qui doit décider. Et je pense, pour ma part, qu'on doit gagner du temps. S'il faut gagner du temps, il faut qu'on lève les options nécessaires, qu'on oriente malou-malou dans le travail qu'il doit faire. Et non, c'est rejeter la balle mutuellement. On ne va pas organiser les élections. Et ça profitera à qui ?
Merci.
Si on n'organise pas les élections d'ici 2016,
merci,
ça
Marcel.
Profite à ceux qui sont en place, c'est-à-dire le président de la République, les députés,
merci.
Les sénateurs et compagnie.
Merci Marcel Ngoï. Joachim Diana, il y a des gens qui estiment que l'organisation des élections de 2016 reste quand même assez hypothétique. Il y a plusieurs contraintes, hein. Il y a des problèmes techniques, il y a des problèmes financiers. Vous pensez qu'en 2016, on pourrait organiser des élections ?
Mais écoutez, il n'y a pas de miracle sur ce point-là. On ne récolte que ce qu'on a semé. Nous, dans notre journal, nous le disions déjà dès le moment où on avait commencé ce qu'on a appelé la réforme de la CENI. Nous sommes dit, on recommence le même problème tel qu'on était entre le passage entre la CI et la CENI. On a passé tout le temps dans les discussions, dans les castings et tout ça. On a perdu le temps. Et puis, il y a eu les concertations. Et on est dans le même schéma. Ngoï Moulunda a réuni les partis politiques, leur a proposé les difficultés qu'il y avait à réussir d'avoir des élections avant le 6 décembre. Les gens ont dit, le 6 décembre, on doit connaître le président de la République, sinon le ciel va tomber sur le Congo. Et là, on connaît, la CENI se retirait à Lubumbashi, a proposé un calendrier où il fallait faire une course vraiment contre la montre pour organiser ces élections, et on les a organisées avec les conséquences que nous savons. J'apprends que le confrère de Lumbujima, il dit, est-ce que on a corrigé les erreurs, le président a corrigé les erreurs
des élections passées.
Mais le président lui avait parlé de quelles erreurs? Qu'il connaît que ces erreurs dont le président parlait, on ne les a pas corrigées. S'il ne peut pas nous citer ces erreurs-là, comment il peut savoir que ces erreurs ne sont pas corrigées? Mais je peux dire qu'il y avait justement le temps. Les élections-là, en 2006, on a organisé les élections en 4 ans, alors qu'en 2011, c'est en 8 mois. C'était vraiment difficile. Et donc la cartographie, tout ceci, il y avait des bureaux, les gens qui ne sont pas allés sur le terrain. Ce sont là des erreurs qui vont être corrigées. Et compter sur l'argent extérieur qui arrivait à tempérament. Et tout ce sont là ces erreurs-là qui vont être corrigées. Mais je suis certain qu'on va organiser ces élections dans la même précipitation et avec les mêmes conséquences.
Merci Joachim. Dans la deuxième et dernier terme de ce soir, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda FDLR en cible ont décidé de déposer les armes pour, disent-ils, donner la chance à la paix dans les Grands Lacs. Cette annonce a été faite le week-end dernier par le colonel Wilson Irategeka, secrétaire exécutif intérimaire des FDLR. En réaction, le porte-parole du gouvernement congolais affirme que si cette décision se confirme, ce serait une avancée vers la paix dans la région. On écoute le ministre Lambert Mendo-Malanga, joint au téléphone par Richard Kamunga.
Si cela se confirmait, ce n'est pas sans intérêt pour nous, dans la mesure où cela répondrait au terme de l'ultimatum qui avait été lancé par le président de la République en direction de tous ces groupes armés, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Nous avons toujours dit que les FDLR n'avaient rien à faire en République démocratique du Congo, quelles que soient leurs revendications, et que, à défaut de se désarmer volontairement, ils le seraient par la méthode forcée. Nous avons même commencé à procéder à ce désarmement forcé malgré les dénégations du voisin rwandais pour des raisons que nous ignorons. Un tel développement permettrait d'accélérer effectivement le retour à la paix dans cette partie de notre région des Grands Lacs.
La MONUSCO, de son côté, affirme qu'elle ne se laissera pas tromper par des déclarations d'intention des groupes armés pour annuler les opérations de désarmement en cours. C'est ce qu'a déclaré mercredi à partir de Goma le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU qui intervenait lors de la conférence hebdomadaire des Nations Unies. Pour le général Abdallah Wassi, si les FDLR ne déposent pas les armes avant la fin des plans opérationnels en cours d'élaboration, ils seront attaqués et désarmés par force. Baba Isaac Kalonji, je rappelle que vous êtes journaliste indépendant, vous intervenez depuis Mbujimayi dans la province du Kassai Oriental. Quelle analyse vous faites de cette déclaration des FDLR? Faut-il y accorder beaucoup d'importance?
Estimés consoeurs, merci beaucoup de la préoccupation qui est la mienne aussi. Je vous fais savoir que le pays Congo, République démocratique, est un véritable bastion des combines politiques, terroir où se déroule ce qui ne se fait pas ailleurs. Vous savez que quand vous parlez FDLR, vous ne faites aucunement allusion à Mbororo, à Agnéré, qui sont des forces négatives étrangères qui vivent sur le territoire congolais. Maintenant, il fallait que FDLR seul se prononce pour dire qu'il dépose les armes, pour applaudir comme le ministre Mende vient de le faire. Mais ces forces-là, quand on accorde un droit d'asile à un pays, à une portion de personnes qui sont attaquées dans leur propre pays, on leur accorde, selon le droit international, un droit d'asile. Mais il y a des activités auxquelles ils ne peuvent pas se livrer. Mais nous mettons 20 ans avec FDLR chez nous, porteurs des armes, avec Mbororo, avec Nyeré, avec Adef Nadu de l'Ouganda, qui portent les armes, mais qui sont sur notre territoire.
Alors, Baba Isaac Kalonji, les FDLR, ils sont congolais, ils ne sont pas étrangers. Je voulais juste apporter cette précision à continuer.
Donc, ces forces-là, à défaut de regagner leur pays, si la communauté internationale n'intervient pas pour les prendre et les acheminer dans leur territoire, tel que l'accord cadre l'exige, dialogue inclusif dans tous les trois pays voisins du Congo, et ils règlent leurs problèmes chez eux, mais dès qu'ils déclarent qu'ils déposent les armes, tout à fait d'accord, mais ils déposent les armes pour aller où, pour rester où, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'il faut que Kigali accepte de tenir son dialogue inclusif avec tous ceux qui s'opposent à son pouvoir, de sorte qu'on trouve des compromis à des problèmes qui se posent au Rwanda. Et que nous nous laissions chez nous pour résoudre nos propres problèmes.
Merci.
C'est ça mon avis.
Merci Baba Isaac Alonji, Marcel Ngoï. Les FDLR déclarent déposer les armes. Entre-temps, au Rwanda, Kagame, le régime du président Kagame est catégorique, pas des négociations avec les FDLR. Baba Isaac Kalonji vient de se poser la question, ils vont déposer, c'est vrai qu'ils déposent les armes pour aller où, pour vivre où, tant que Kigali n'est pas prêt à les accepter.
C'est un éternel problème. C'est ça que nous appelons cercle vicieux. Les FDLR, depuis toujours, sollicite le retour au Rwanda pour un dialogue. Les FDLR ont toujours demandé la participation, par exemple le dialogue d'abord, la participation aux institutions et l'organisation des élections libres, transparentes et démocratiques. Mais Kigali, de son côté, avec Kagame à la tête, n'a jamais accepté ce dialogue. Kigali considère les FDLR comme des génocidaires. Depuis 1994 que les FDLR sont chez nous, Paul Kagame considère ces gens-là comme des génocidaires et donc avec lesquels il ne peut pas dialoguer. Deuxièmement, s'il ne peut pas dialoguer, comment il peut entrevoir la possibilité de les associer ou de les intégrer dans les institutions? Comment Kigali, donc Kagame, qui sait qu'il est issu d'une ethnie Tutsi, et en tant que tel, les FDLR sont pour la plupart, la majorité, sont des Hutus, qui sont majoritaires. Comment quelqu'un comme Kagame va-t-il accepter d'organiser des élections libres, transparentes et démocratiques pour que lui qui est minoritaire de par son ethnie puisse être renversé par la majorité des Hutus qui vivaient pourtant ailleurs, loin de lui? Voilà le problème. Mais alors ici, c'est le Congo qui paraît, qui devient maintenant comme le maillon le plus faible à cause de son hospitalité, à cause du fait d'avoir accepté un beau jour d'ouvrir les frontières nationales. Et ici aussi, la communauté internationale qui avait demandé un beau jour que le Congo ouvre ses frontières a une part de responsabilité. C'est l'éternel problème. Aujourd'hui, que les FDLR se réveillent pour nous déposer les armes, mon ami, mon frère, mon confrère, Baba Isaac, l'a dit, mais c'est pour aller où? Et puis, les FDLR sont localisés où?
Vous avez suivi
Les M23 a occupé une bonne partie du territoire dans lequel les FDLR sont censés être. Où est-ce qu'on les a capturés? On les a vus? L'RCD Goma est arrivé jusque chez moi à Kabinda, au centre du pays. On n'a pas vu une seule fois qu'on nous dise, voilà, on les a localisés à tel endroit. Ce sont des forces disparates, comme les Interahamwe et consorts, qui les ex-phares, qui étaient...
Vous croyez en leur déclaration, leur décision de déposer les armes?
Ils n'ont ni foi, ni loi, ni principe. Je vais croire en eux comment? Je suis en train de vous dire que l'équation-là, il faut une conférence internationale. On l'a déjà tenue. Il y a eu un accord cadre qui demande aux pays de la région des Grands Lacs de privilégier la voie du dialogue.
Merci,
ça veut dire que quelque part, la communauté internationale a un poids à exercer sur Kagame, sur Museveni, sur Kabila, pour que dans leur pays, qu'il y ait chaque fois un vrai dialogue. C'est ça la solution.
Merci Marcel Ngoyi Joachim Diana, éditeur du journal La Colombe. Cette décision de FDLR pourrait-elle favoriser le retour de la paix dans les Grands Lacs si et seulement si ils déposaient réellement les armes?
Vous savez, pour une fois, je suis vraiment très satisfait par la déclaration du responsable de la MONUSCO. Pour la première fois. Mais c'est pour vous dire que les FDLR, d'abord on se pose la question, ils vont déposer les armes contre qui? Voilà des gens qui sont arrivés au territoire congolais, qui n'ont jamais jeté un seul caillou au Rwanda. Ils n'ont jamais fait la guerre au Rwanda, les FDLR. C'est contre les populations congolaises qu'ils sont en train de faire la guerre. Et ils disent, nous déposons les armes et nous demandons le dialogue avec le Rwanda. Mais ils n'ont jamais sécurisé le Rwanda. Jamais du tout. Mais qu'ils déposent les armes, et quand ils déposent les armes, ils vont avoir un véritable statut au Congo, et à partir du Congo, la communauté internationale saura comment ils peuvent négocier avec Kagame. Mais nous faire marcher dans ce flou artistique, jamais dans l'histoire du monde, nous sommes journalistes, nous disons, on a vu des gens qui sont venus d'un pays voisin, sur un autre territoire où ils ont été accueillis, et qui ont des revendications politiques dans leur pays, mais qui, au lieu d'aller faire la guerre dans leur pays, font la guerre plutôt dans les territoires d'accueil. Alors qu'ils devraient vivre en bonne intelligence avec les Congolais qui les accueillent, qui leur accordent de l'hospitalité. Ça, c'est tout ce que j'ai toujours dit, et ce ne sont pas les experts de la MONUSCO qui me contrediraient, que les fameux FDLR ne sont que de courtiers du régime Kagame.
Ce sont des gens de Kagame qui viennent creuser le coltan et consorts. Le coltan que les FDLR sont en train de creuser sur le territoire congolais. Il est vendu où ça? Vous voyez le comptoir de coltan ici à Kinshasa? C'est à Kigali qu'ils vont vendre.
Donc pour vous, les FDLR qui se trouvent en RDC, c'est une fabrication de Paul Kagame?
Tout à fait.
Et donc cette déclaration viendrait du Rwanda pour...
Mais tout à fait.
Est-ce que c'est parce qu'ils ont peur des opérations militaires menées dans le Nord Kivu par la MONUSCO et les FRDC?
Oui, tout à fait. Et ils veulent créer encore le flou. On va le débouter. Kagame lui-même, il oppose. Je ne veux pas les recevoir. Mais vous vous souviendrez qu'il ne veut pas les recevoir. Alors qu'il a organisé des expéditions au Congo pour venir les chercher. Maintenant qu'ils veulent que nous venions nous-mêmes, non, ne venez pas. Mais il veut bien venir les chercher armes à la main sur le territoire congolais. Est-ce que vous pouvez comprendre ça ici? Donc c'est pour dire que, et d'ailleurs, lorsqu'on a arrêté les gens au sein du M23, on a retrouvé les FDLR rapatriés officiellement par la MONUSCO et qui se retrouvent recyclés, se retrouvent dans le M23 envoyé par le Rwanda. Et je pense que la communauté internationale est en train de jouer un jeu dangereux au Congo. Les jours où les Congolais vont avoir vraiment le dos au mur, on va se dire, mourons une fois pour toutes sans tenir compte de la communauté internationale. Ils obligent au Congo tout dialogue, ainsi de suite, mais ils n'ont rien fait avec Kigali. Il y a eu le Saint-Égide à Rome, on met ça de côté et tout ça, et Kagame, c'est l'enfant gâté de la communauté. Quand il dit, moi, je ne veux pas, on ne veut pas. Mais l'accord cadre qu'on a signé, c'est pour la région de Grand Lac, ce n'est pas seulement pour le Congo. On doit aussi amener Kigali et Kampala à négocier avec les rébellions.
Merci, Joachim Diana. Je considère cela aussi comme votre conclusion, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps. Baba Isaac Kalonji, en un mot, vous allez aussi conclure. Est-ce que cette décision des FDLR pourrait-elle favoriser le retour de la paix dans les Grands Lacs? Brièvement.
Conviction, ma sœur. Linda, Carthage doit être détruit et le Congo doit être balkanisé. Si c'est ça la démarche, j'implore Dieu de mettre que cette démarche n'aboutisse pas. Mais s'il faut que chacun se retrouve chez soi, que mes frères FDLR rentrent chez eux, que les Ougandais qui sont à l'est du pays rentrent chez eux, et que les Congolais restent chez eux pour faire leur dialogue eux-mêmes, et que la communauté internationale qui semble être patron de tout ce qui s'est fait, ce bastion du... trouve son... Quand on a décidé au Tchad de faire partir le président centrafricain sortant, ça n'a pas mis une heure. Je suis en train de me demander, moi, comment les autres peuvent rester défier la communauté internationale,
merci, Baba
défier
Isaac.
La RD Congo.
Merci, Baba Isaac Kalonji. Marcel Ngoué, en un mot, vous avez parlé de cercle vicieux. Est-ce que ça veut dire qu'on est loin de sortir de l'auberge?
Oui, loin de sortir de l'auberge, parce que si la triptyque dialogue, réconciliation et reconstruction n'est pas conjuguée, aussi bien au Congo qu'en dehors, ça ne serait pas possible. Moi, je pense que le respect de l'accord cadre reste aujourd'hui dans la région des Grands Lacs comme l'unique passerelle qu'il faut exploiter s'il faut jamais un jour retrouver la paix dans la région.
Merci Marcel Ngoyi. C'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais qui m'a aidé à préparer cette émission. Guy Mathieu et Samuel Kachak, sous la supervision de Julien Nyamouini. Merci à Héritier Sidiakala qui était à la mise en onde au micro Kelly Nkouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Bonsoir chez vous et bon suite de programme sur la fréquence de la paix.